L'arrivée de Margot Delpierre et puis dans quelques instants, deux interviews exceptionnelles. Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, et François Hollande, ancien président de la République, pour évoquer les 5 ans, 5 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo et 5 ans également après l'attentat contre l'Hyper Cacher. Nous en parlerons donc en compagnie de nos deux invités, Robert Badinter à 7h40 et François Hollande qui sera dans ce studio aux environs de 8h20. Excellent réveil à tous, il est 7h30 sur France Culture. Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Non, les États-Unis n'ont pas décidé de quitter l'Irak. La lettre qui annonçait un redéploiement des troupes américaines en vue d'un retrait a été transmise hier par erreur, a expliqué le chef d'état-major américain. Et les États-Unis ont plus de 5000 soldats dans le pays. Dimanche, le Parlement irakien a demandé au gouvernement de les faire partir. Les relations entre les deux pays se dégradent depuis vendredi et la mort à Bagdad dans un raid américain du puissant général iranien Soleimani. Ses troupes sont engagées au sein de la coalition internationale contre le groupe État islamique et les Américains constituent le plus gros contingent, Valérie Crova.
En 2011, Washington avait retiré l'ensemble de ses forces restées en Irak après la chute de Saddam Hussein. Mais la montée en puissance du groupe État islamique avait poussé Bagdad à demander en 2014 un soutien international, principalement américain, pour lutter contre les djihadistes. Au plus fort de la lutte contre Daesh, 5000 militaires américains étaient déployés en Irak. Si l'État islamique a perdu depuis son assise territoriale, le Pentagone a maintenu leur présence pour empêcher une résurgence de Daesh et aider l'armée irakienne à sécuriser le pays. Le Royaume-Uni disposerait quant à lui d'environ 400 soldats sur place, selon la BBC, les Italiens de 600 militaires, l'Allemagne de 140 soldats, dont la majorité est positionnée au Kurdistan irakien. La France, pour sa part, a 200 militaires basés en Irak, 150 sont affectés à la formation de l'armée irakienne et 50 au quartier général de la coalition, situé dans la zone verte de Bagdad. Depuis 2015, les militaires français ont instruit plus de 7500 soldats irakiens. Pour l'heure, toutes leurs activités ont été suspendues suite au raid américain dans lequel le général iranien Soleimani a trouvé la mort.
Et c'est aujourd'hui que doit avoir lieu l'enterrement du général Soleimani dans la ville iranienne de Kerman. Les habitants sont déjà nombreux à s'être rassemblés dans le centre. La liste de ses ennuis judiciaires s'allonge. Hier, alors que l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein était à New York pour l'ouverture de son procès, il a été inculpé à Los Angeles pour 2 nouveaux cas d'agression sexuelle en Californie. La concertation sur la réforme des retraites reprend à partir d'aujourd'hui. Syndicats et patronats ont rendez-vous au ministère du Travail à partir de 9h30. Seront présents également la ministre des Solidarités Agnès Buzyn, les secrétaires d'État aux retraites Laurent Pietraszewski et à la fonction publique Olivier Dussopt. Ils discuteront de sujets précis, Anne-Laure Jumet.
Avant les vacances, le Premier ministre avait ouvert le dialogue sur 4 thématiques. La pénibilité, le minimum vieillesse, les fins de carrière et la question des transitions vers le régime unique. L'objectif de cette première réunion est donc de lancer ces chantiers. Et si Édouard Philippe ouvrira cette séance, il s'éclipsera ensuite pour laisser à ses ministres le soin de dérouler leur partition. À Muriel Pénicaud, par exemple, la pénibilité dans le secteur privé et l'emploi des seniors, quand Olivier Dussopt s'attachera à appliquer cette même pénibilité dans le secteur public. Alors cette question de la prise en compte des facteurs pénibles, elle est importante pour les syndicats réformistes, ceux que le gouvernement souhaite rallier, mais ces derniers attendent aussi des avancer sur le sujet qui fâche, l'âge pivot. Et pour Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, il faut traiter à part cette question.
Il faut séparer et déconnecter la fin du travail sur la réforme systémique des solutions d'équilibre. On n'est pas contre l'équilibre ni même des solutions d'équilibre, mais il faut les déconnecter. Certaines peuvent engager le patronat, d'autres peuvent engager les salariés, d'autres peuvent engager des engagements de fonds de réserve ou d'autres systèmes. Il faudra bien qu'il y ait un compromis au bout du compte. Peut-être qu'il y aurait des solutions du type malus provisoire, etc. Mais après, il faut le déconnecter.
Sur ce sujet, la parole du Premier ministre est attendue avec l'annonce d'une méthode et d'un calendrier. Et peut-être un feu vert à la proposition de la CFDT d'organiser une conférence du financement pour définir les moyens d'équilibrer le régime.
Vous commencez peut-être à en avoir l'habitude. Déjà 34 jours de grève dans les transports. Il est encore difficile de se déplacer aujourd'hui, surtout en Ile-de-France. La plupart des lignes de métro ne fonctionnent qu'aux heures de pointe et pour certaines partiellement, explique la RATP. Trois dépôts de bus étaient bloqués ce matin. La SNCF prévoit de faire circuler 3 TGV sur 4 et 1 Transilien sur 2. Gabriel Matzneff ne recevra plus l'allocation annuelle aux auteurs accordée par le Centre National du Livre. L'écrivain fait l'objet d'une enquête pour viol sur mineur. Il bénéficie de cette aide depuis 2002, mais elle n'est pas justifiée selon le ministre de la Culture, Franck Riester. Il a récemment été mis en cause par Vanessa Springora, auteur du livre Le Consentement, et qui raconte sa relation sous l'emprise de Gabriel Matzneff alors qu'il avait 50 ans et elle 14. Le ciel restera gris sur la plupart de la France. Aujourd'hui, des nuages bas accompagnés parfois de brouillard et de quelques gouttes de pluie. Météo France prévoit au maximum 6 degrés à Nancy, 8 à Lille, 9 à Paris et Lyon, 12 au Havre, 13 à Bordeaux et Nice, Guillaume.
Merci Margot Delpierre, 7h35 sur France Culture. La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
L'actualité vue sous un prisme orange fumé, c'est à nouveau en Australie ce matin.
Oui, impression saisissante, c'est vrai, en parcourant les journaux australiens avec toutes ces photos aux tonalités jaune-orangé, spectaculaires et désespérantes images des incendies qui ravagent depuis des semaines, des mois maintenant, les régions du Sud-Est, Nouvelle-Galles du Sud et Victoria. Dans ces journaux, ce mardi, on lira que l'heure est à l'accalmie pour les pompiers, une timide fenêtre de répit météorologique dont tout le monde dit cite le Sydney Morning Herald, c'est bien qu'elle sera de courte durée, que la partie est loin d'être terminée, mais quelques jours d'accalmie tout de même qui permettent au moins de mesurer l'ampleur des dégâts déjà monstrueux. Il y a bien sûr les chiffres repris par le quotidien de Sydney, les 2000 maisons déjà détruites par les flammes, les 25 morts au bas mot, les surfaces calcinées, un tiers du territoire total de l'île, soit l'équivalent de toute l'Irlande. Le Morning Herald cite plusieurs sinistrés qui ont eu l'occasion hier de revenir chez eux, de voir ce qu'ils restent de leur vie et qui ont trouvé à la place ce qui ressemble, disent-ils, à un volcan fumant ou bien à un paradis perdu. Il a fallu évacuer l'Éden, titrait hier soir The New Daily, reprenant un ordre prononcé quelques heures plus tôt par les policiers « Get out of Eden » et qui leur intimait l'ordre d'évacuer donc leur village nommé justement Éden, le paradis.
Mais parmi les habitants du bush australien qui n'ont pas eu la possibilité, eux, d'évacuer, de nombreux médias s'arrêtent sur le sort de la faune sauvage australienne.
Et à chaque cataclysme médiatique, son icône, son porte-étendard, en l'occurrence sur le demi-milliard d'animaux tués par les incendies jusque-là. Selon les estimations communément admises, les koalas sont, sinon les plus touchés, en tout cas les plus visibles. Il faut dire qu'ils sont de longue date, reconnaît le site d'analyse et de débat The Conversation, les emblèmes pelucheux du tourisme en Australie. Leur extermination par les flammes choque bien plus que toutes les autres destructions de biomasse en cours. Il faut dire, avec donc The Conversation, que la préservation de cette espèce emblématique était devenue un combat national dès le début du XXe siècle en Australie, quand on avait compris le potentiel d'empathie de cette petite boule de poils grises et l'importance de le sauver de l'extinction qui lui semblait promise. Un siècle plus tard, les populations de koalas étaient foisonnantes jusqu'à cette terrible saison des incendies. Selon l'édition australienne du Guardian, rien que sur l'île de Kangaroo Island, environ 25 000 koalas auraient péri dans les flammes. Les vidéos virales sur les réseaux sociaux où l'on peut voir les petits marsupiaux sauvés par des humains héroïques, un biberon ou une bouteille d'eau à la main. Ces vidéos donc sont en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt transformée en cimetière animal. Et pourtant, il faut bien le dire, ce sont elle qui marque les esprits à travers le monde.
Car la presse australienne s'émeut également du grand élan de solidarité internationale qui s'exprime donc depuis quelques jours.
Et il aura fallu pour cela, note de Mercury, que 6 millions d'hectares brûlent, soit bien plus que les surfaces touchées l'été dernier en Amazonie. Mais ça y est, des pays lointains comme l'Allemagne et les États-Unis ont pris conscience de l'ampleur planétaire du drame qui se joue en Australie. La chaîne publique ABC note qu'à plusieurs reprises au cours de la soirée des Golden Globes à Los Angeles dimanche, des stars d'Hollywood ont évoqué les incendies et appelé aux dons. Au-delà de cette touche un peu people, pas de quoi se réjouir, ABC cite également un climatologue australien qui confirme que les quelques pluies et baisses de température de ces dernières heures ne doivent pas nous tromper. Le pire est encore à venir, la chaleur va s'accentuer et pourrait déclencher des phénomènes météo extrêmes, cyclones, inondations dans les prochaines semaines. La voilà peut-être cette spirale climatique dont parle depuis quelques jours la presse australienne, expression lue dans les rapports des experts mondiaux en réchauffement climatique, mais qui prend en Australie une consistance particulièrement inquiétante.
Et puis on va en Inde, Camille, où le quotidien The Hindu ne mâche pas ses mots dans son édito du jour.
Il revient sur une attaque survenue dimanche soir sur le campus de la très réputée université JNU de New Delhi, quand des dizaines de jeunes masqués, armés, s'en sont pris à des étudiants et des professeurs mobilisés depuis des semaines semaines contre la loi anti-musulman, dite loi sur la citoyenneté indienne, voulue par le Premier ministre Narendra Modi. Dimanche, donc, à l'université Jawaharlal Nehru, selon l'édito de The Hindu, c'est le masque de l'anarchie que l'on a vu à l'œuvre. Et ce masque, il dissimule bien mal la frange la plus nationaliste qui détient sans partage le pouvoir en Inde. Car derrière les agresseurs de dimanche sur le campus, qualifiés d'hommes de main par le quotidien anglophone, on trouve sans grand mystère les militants de l'ABVP, syndicat étudiant de droite dure, habitué des coups de force contre ses congénères de la GNU, à la réputation de gauchiste, et lié, ce syndicat, au parti politique BJP de Narendra Modi. Ce qui frappe dans les attaques de dimanche, c'est la complicité, pour le moins, des forces de l'ordre. Elles étaient déployées en masse autour de l'université, mais elles se sont bien gardées d'intervenir. The Hindu affirme même que l'éclairage public avait été éteint pour mieux couvrir les exactions qui ont fait au final une trentaine de blessés. Aucun agresseur n'a été interpellé, et même pire, complète la chaîne NDTV, le président du principal syndicat des étudiants de la GNU, victime donc, est blessé lors de l'expédition punitive, se retrouve lui poursuivi pour des dégradations commises sur le campus. Pour l'Hindustan Times, l'attaque en règle du campus de New Delhi nous en dit long sur ce qu'est devenu l'Inde d'aujourd'hui, un pays où les débats idéologiques dans des lieux censés être dédiés au savoir et aux idées sont écrasés sous une violence brute au service du pouvoir nationaliste en place. Je vous laisse sur ces mots de conclusion signés de l'auteur de cette tribune, Roshan Kishore. Une société qui tolère la violence dans ses universités est une société qui tolère la destruction de son futur.
Merci Camille Magnard. Restez avec nous dans quelques instants. Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, pour évoquer Charlie Hebdo et l'hypercachère 5 ans après ses tueries.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Bonjour Robert Badinter.
Bonjour.
Que faisiez-vous lorsque vous avez appris la nouvelle de l'attentat contre Charlie Hebdo?
Oui, je l'ai appris dans l'après-midi et évidemment, je connaissais certains d'entre eux. C'était un attentat très sanglant, je le rappelle. 8 morts, journalistes, 3 personnes qui travaillaient là, parmi lesquelles il y avait une mémoire de policiers, en tout cas 11 personnes en tout. L'abomination commise sans froid. Et puis, quand ça touche certains que vous connaissez, évidemment, la relation personnelle, le caractère affectif joue. Et
qui étaient vos amis à Charlie, Robert Badinter?
Cabu, indiscutablement, et puis Volinsky aussi. Mais au-delà même de ce sentiment personnel, vous mesurez la gravité de ce que ça signifiait. 11 personnes abattues en plein Paris, un attentat préparé de longue date par des fanatiques, réalisé de sang-froid, des hommes et une femme abattus là. Sauf être insensible, comment n'être pas ému, et je dis, dans mon cas, en pensant en particulier à Cabu.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? On a appris très rapidement que c'était des djihadistes qui avaient perpétré cet attentat. Votre réaction, Robert Badinter?
Oh, je n'ai pas été surpris par la personnalité des auteurs de l'attentat. C'est l'attentat lui-même qui m'avait stupéfié en plein Paris et des années après la publication par Charlie Hebdo des caricatures, la caricature de Mahomet, peu à peu du temps avait joué. On avait un peu oublié les menaces, même si il y avait encore garde du corps pour certains d'entre eux, on avait oublié. Et donc ça émergeait d'un seul coup avec une violence inouïe, et c'est ce qui a créé l'émotion. J'ajoute que c'était à la fois un assassinat délibéré, commis de sang-froid, prémédité, Et en même temps, au-delà de la personne de ces journalistes, et encore une fois, des amis parmi eux, il y avait la teinte majeure, mes yeux, mais aux yeux de tous, contre la liberté de la presse. Ça n'était pas, comme on l'a vu dans certains régimes, à certaines époques, vous savez, des journaux brûlés, jetés, incendiés, etc., des livres. Non, là, c'était eux, leur personne et leur vie. Une rédaction tout entière, en tout cas, en grande partie, abattue. Alors, je crois qu'à ce titre, dans l'histoire si douloureuse des actions poursuivies contre les journalistes, l'attentat de Cherly demeure un exemple effrayant de, disons-le, de violence, à mes yeux, et je pense aux yeux de presque tous, vraiment criminel, contre des hommes qui exerçaient librement leur droit d'expression et des fanatiques qui ne le supportaient pas. À ce titre, je pense que l'émotion intense qui a parcouru bien au-delà de nos frontières, qui a couru dans les démocraties, se justifie pleinement, s'explique.
Fanatique précisé, Robin Badinter, ce que vous voulez dire par là.
Vous avez l'acte fanatique. Vous avez, en effet, des hommes qui se croient porteurs d'un message de Dieu. Et au nom de ce message divin, ils tuent. Ils tuent les autres. Ils se réservent ce que je refuse pour ma part à tout homme et à toute société, le droit de vie et de mort sur des êtres humains vivants. Là était le premier, je dirais le pire des outrages, indépendamment de ce qui demeure lié à ces crimes, c'est-à-dire le malheur des familles, de ceux qui les aiment. Mais c'est des vies qu'on supprime. Et puis s'y ajoutait, mais ça demeure, je préfère dire s'y ajoute, le caractère totalitaire du crime. Au nom de ma vérité, de ma conviction, je vous interdis de vivre. Je vous interdis d'écrire. Vous ne devez plus être. Et je vous tue. Je vous fais disparaître. Donc, vous avez là l'outrage. Le terme est presque insuffisant. L'atteinte première à la liberté qu'a chacun d'exprimer ses convictions.
J'ai entre les mains le livre que vous avez consacré à votre grand-mère Idis, laquelle était juive, laquelle a été persécutée en tant que telle, d'abord en Bessarabie où elle est née, et puis en France. Or, si je vous dis ça, c'est parce que l'attentat contre Charlie Hebdo a été aussi suivi d'un attentat contre un supermarché cachère, attentat perpétré donc avec un motif antisémite évident. Et là aussi, j'aimerais avoir votre réaction, Robert Badinter. Ça n'était pas évidemment le premier attentat antisémite commis en France. Ça n'est pas non plus, hélas, le dernier. Qu'en pensez-vous ?
Mais, moi, vous savez, je pense que tuer un être humain à cause de sa religion ou de son origine est en soi un crime atroce. Atroce parce que c'est une qualité inhérente, c'est pas au regard de l'action qu'il a commise. L'expression la plus barbare de ce racisme-là ou de cet antisémitisme-là, c'est l'enfant qu'on jette dans la chambre à gaz après l'avoir transporté d'Europe c'est arrivé chez nous aussi, jusqu'à Auschwitz. Prendre l'enfant et l'assassiner de sang-froid pour des raisons idéologiques, racistes comme celle-là, c'est le dernier degré de la barbarie humaine, un enfant. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que à Toulouse, dans le collège...
Le collège Ozar à Torin, où Mohamed Merah, pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale, a tué un enfant juif parce qu'il était juif.
Mais on sait, nous savons, que Mohamed Merah avait pris une caméra qu'il avait fixée sur sa poitrine. Et au moment où il est allé tuer les enfants juifs, et en particulier la petite fille, 8 ans, il l'a prise par les cheveux, il l'a abattue de sang-froid à bout portant. Je ne sais pas si on mesure le degré de barbarie qu'il faut pour abattre un enfant, quel qu'il soit. Et parce qu'elle était juive, il la tuait, exactement comme les hommes des Einsatzgruppen nazis. C'est ça la barbarie. C'est ça l'expression même de la barbarie. Alors qu'elle s'applique aux uns ou aux autres, c'est toujours l'expression de la barbarie quand vous dites « parce que tu es né comme ça, je te tue ». On ne peut pas aller plus loin dans la dégradation humaine.
Robert Badinter, quand vous voyez les manifestations d'antisémitisme en France, aux États-Unis, il y a eu plusieurs attentats antisémites aux États-Unis, est-ce que vous dites « tout cela pourrait recommencer d'une manière ou d'une autre »
Je regarde, j'écoute. Longtemps, j'ai refusé de penser que l'antisémitisme, après le génocide juif en Europe, des nazis, et particulièrement de Hitler, voulu par Hitler, a entraîné la disparition de millions d'êtres humains qui n'avaient que le tort d'être nés juifs. J'ai pensé que c'était terminé. Je crains de m'être trompé. Je suis maintenant un vieil homme et je regarde. J'ai conservé, heureusement, une très bonne mémoire. L'unique avantage de l'âge, quand vous avez conservé la mémoire, c'est vous donner une longue perspective, une rétrospective. Mais ça ouvre aisément des voies sur la perspective. Donc, je peux mesurer ce retour de l'antisémitisme. Je n'aurais pas cru possible. Alors, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec un système entier fait pour génocider des millions d'êtres humains. Mais on a d'autres signes et... J'ai vu ça, j'avais vu les premiers, un jour, au Caire, en me promenant dans le bazar avec un ami, un collègue universitaire, très voyant, égyptien. Et dans le bazar, là, j'ai ciblé, pointé et acheté un exemplaire du protocole des Serge de Sion en arabe. Et je me suis dit, comment ? Ce faux, car on sait que c'est un faux, c'est une vérité historique, fabriqué par la police tsariste pour augmenter, accroître l'antisémitisme brutal qui régnait dans cet empire. Le protocole des Sages de Sion, qui a été récupéré par Goebbels, qui, bien entendu, l'a modernisé, l'a répandu largement, et bien maintenant on le vend dans une édition arabe au marché du Caire. Et mais hélas, c'est dire que vous avez à la fois une réviviscence de l'antisémitisme, à ma stupéfaction, car je ne croyais pas ça possible.
Il y a une scène où vous vous mettez en colère parce que le nom de Mitterrand est sifflé.
Non. Non, c'est une erreur historique liée au montage. Vous parlez de la scène, de l'enregistrement fait au moment de la commémoration du Veldiv, la
Absolument.
Première.
On vous voit vous mettre en colère.
Ah oui, mais je l'étais. Mais pas du tout, parce qu'il y avait eu des clameurs concernant Mitterrand venant de la part de l'extrême droite. Ils n'en viennent pas du tout.
Alors,
si vous aviez vu, immédiatement avant qu'on arrive Mitterrand, président d'une république laïque, ne peut pas aller à une cérémonie religieuse. Moi, j'y étais. Et j'avais dit à Mitterrand, je souhaite prendre la parole. Voleur, Robert, pourquoi pas? J'étais président du Conseil constitutionnel. On avait entendu le récit d'une survivante qui était petite fille, 10-11 ans, et qui avait été arrêtée par la police, mise au Beaubeldief, envoyée à Beaune-la-Rolande, ramenée à Drancy et livrée aux Allemands, et qui était partie au Auschwitz. Grand moment d'émotion. Et à ce moment-là, la cérémonie religieuse étant terminée, Mitterrand arrive. Et les militants d'extrême droite pro-israélienne de la communauté juive hurlent à mort Mitterrand. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça a été. Pas pour Mitterrand. Mitterrand, c'était un rhinocéros des réunions publiques. Moi, j'en avais fait des dizaines avec lui. Salaud, ordure. Oh, ça glissait, il s'en foutait complètement. Mais moi, et là, on trouve Idiss. Là, c'est Idiss qui m'avait dit, quand j'étais petit garçon, toujours, fais attention, quand on parle des morts, sache qui vous écoute. Quand on parle des morts, sache qui vous écoute. Mais que les Juifs osent, parce que c'était des Juifs, faire un meeting politique à propos de ce qui avait été, il faut bien le dire, une ignominie, ah, ça m'a mis hors de moi. Mais ça m'a mis hors de moi par rapport à Idiss, pas par rapport à Mitterrand, parce que je savais que Mitterrand, c'est quoi? C'est le récit par cette femme et la prière des morts qui ont fait revenir chez moi des... ce que Idiss y avait instillé lentement dans l'enfance. Quand même, et puis, vous savez, ça ne m'est pas indifférent. À la fin d'Idiss, je donne la longue liste des ceux des miens qui ont disparu. Et quand même, vous savez, je vais vous raconter une anecdote affreuse que j'ai apprise après la guerre. Ma deuxième grand-mère, celle du côté de mon père, avait 80 ans. Elle était très malade. Elle était apatride. Et Bousquet avait promis aux Allemands de leur livrer les Juifs apatrides. On avait la liste. Et on est venu l'arrêter. Et après la guerre, à la fin de l'occupation, je suis revenu à Paris, j'ai été voir la concierge de l'immeuble très populaire où elle habitait. Et j'ai dit, on a arrêté ma grand-mère. Elle m'a dit, ah oui, oui. Et alors elle m'a raconté. Scène inouïe, qu'elle était très malade à cette époque-là, très malade, au lit. Il est venu quatre gendarmes, c'est garde mobile, GM, garde mobile. Ils ont vu, elle poussait évidemment des cris, pleurait. On avait collé sa fille, ma tante, là-bas, dans une autre pièce. Puis finalement, ils l'ont embarqué. Il y avait là un milicien volontaire, du style Lucien Lacombe, vous savez, un jeune voyou, nazi. Alors ils ont commencé à descendre l'escalier, il n'y a pas d'ascenseur, les quatre gardes portant la civière, ma grand-mère hurlant dessus, et le milicien... derrière. Alors, immeuble populaire, il faut Oh, salaud, vous voulez pas que c'est une vieille femme, laissez-la tranquille, etc. Voulez-vous laisser... Et le milicien a sorti, m'a raconté la concierge, son revolver, et a dit, ça suffit, ça fera jamais qu'une youpine de moins. Et le premier qui continue, je lui brûle la gueule. Et dans un silence de mort, ils ont continué à descendre, on l'a mise dans le car, elle est allée tout droit à Drancy. À Drancy, la nuit même, elle a été jetée dans le train, et elle est morte dans le train. Ce qui est très au-delà de Idès. Et je suis content pour Idès qu'elle soit morte autrement que comme ça. Alors, vous comprenez, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la barbarie que ce jeune homme pour trouver Mérad, tuer un enfant, jeter une femme mourante dans un camp de concentration pour destination? C'est la même barbarie. Et ça vaut pour tout, pour toutes les formes de racisme, toutes les formes de xénophobie, toutes les formes d'intolérance, pour tout. Et on retrouve là Charlie Hebdo, la boucle est bouclée.
Merci beaucoup, Robert Badinter, de nous avoir accordé de votre temps. Idis, votre ouvrage publié chez Fayard.
Merci.
Et dans quelques instants, un autre invité exceptionnel, François Hollande, l'ancien président de la République, pour évoquer les 5 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère. 8h sur France Culture, bon réveil à tous. Le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On sort de la grève en avançant et en discutant. Voici les mots du Premier ministre Édouard Philippe à l'instant, avant l'ouverture de nouvelles négociations avec les partenaires sociaux aujourd'hui. Sur la réforme des retraites, il pourrait consentir à organiser une discussion sur le financement du futur système. C'est ce que demandait la CFDT, vous l'entendrez.
Et vous comprendrez aussi pourquoi la CGT, elle, demande aux salariés des raffineries, des dépôts de carburant et des ports pétroliers de se mobiliser à partir d'aujourd'hui.
Charlie, 5 ans après les attentats chez Charlie Hebdo et à l'hypercachère, la France se souvient et prépare un procès. Il aura lieu au printemps. En ce 7 janvier 2020, nous ferons le point sur ce rendez-vous attendu.
Les États-Unis n'ont pas l'intention de quitter militairement l'Irak. Rétro-pédalage après une lettre qui disait le contraire, diffusée hier soir. Nous irons à Washington dans un instant.
Et puis nous nous pencherons sur l'offensive du maréchal Haftar en Libye. Il annonce avoir pris le contrôle de Sirte, à l'est de Tripoli. Il ne cédera pas, parle de détermination. La réforme des retraites se fera. À 2 heures de la reprise des négociations sur le futur système, le Premier ministre Édouard Philippe prévient chez nos confrères de RTL, tout en tentant de rassurer. Édouard Philippe veut discuter. Il n'est d'ailleurs pas fermé sur aucune modalité concernant l'âge pivot, voilà ce qu'il a dit. L'âge pivot, c'est la ligne rouge de la CFDT qui proposait avant-hier une conférence sur le financement de cette future réforme. Là-dessus, Édouard Philippe semble d'accord. C'était il y a quelques minutes.
J'ai entendu l'idée d'une conférence sur le financement, qui est au fond un ensemble où on doit réfléchir à justement cette question du financement et de l'équilibre. Je trouve que c'est une bonne idée. Il faut qu'on en détermine le contenu. Je ferai des propositions aux organisations syndicales dans 2 heures, qui nous permettront peut-être de donner un contenu, un calendrier, un mandat à cette conférence de financement, et donc d'avancer. Et je l'ai dit depuis le début. Je suis ferme sur l'objectif. Nous allons faire un système universel. Et donc, nous allons supprimer les régimes spéciaux. Mais je suis ouvert sur la façon dont on peut y arriver et sur la façon dont on peut garantir les priorités de chacun. C'est ce qui va se passer au cours de la semaine sur la pénibilité, sur les fins de carrière, sur le minimum contributif. Et c'est ce qui peut se passer sur l'équilibre dans le cadre de cette conférence, si nous nous mettons d'accord sur la façon de l'organiser.
Édouard Philippe qui ouvrira la séance de discussion à 9h30 tout à l'heure face aux représentants syndicaux et patronaux au ministère du Travail. Charge ensuite à Muriel Pénicaud au Travail, Agnès Buzyn à la Solidarité, à la Santé, Laurent Pietraszewski aux retraites et Olivier Dussopt à la fonction publique, charge à eux de convaincre les partenaires sociaux. Les réformistes veulent voir disparaître l'âge pivot de la réforme, mais les autres, CGT et FO en tête, demandent le retrait du texte. A priori, il pourrait n'être question aujourd'hui que de pénibilité et de fin de carrière. L'ancien secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, veut mettre en garde ce matin le président de la République.
si un conflit se termine mal, quand je dis se termine mal, c'est que les gens ont fait grève ou ont manifesté et ils n'obtiennent pas. Il y a toujours un retour. Il y a toujours un effet boomerang. Alors, il se fait pas obligatoirement socialement, l'effet boomerang. Parfois, il se fait au moment des élections. Et je pense pas aux élections municipales quand je dis ça. Je pense plus à des élections présidentielles. Et là, je considère que, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, que le président de la République joue gros avec la démocratie. Parce que s'il ne cède sur rien et qu'il passe en force, en plus c'est pas fini le dossier parce que techniquement c'est très compliqué, dans un deuxième tour présidentiel comme on a eu la dernière fois, hein, Macron-Le Pen, il y a beaucoup de gens qui ne voteront pas Macron au deuxième tour, je dis pas qu'ils voteront Le Pen, mais qu'ils s'abstiendront. Mais c'est un risque démocratique qu'il prend et un risque sérieux.
Jean-Claude Mailly au micro de Rosalie Lafarge, reprise des discussions à 9h30 donc au ministère du Travail. Notez qu'après ce journal, Frédéric Saïs nous rejoindra pour le billet politique. Il analysera ce matin le double visage de l'exécutif sur les retraites. Et pendant ce temps, les premières raffineries pourraient être bloquées. C'est sur ce front que se centralise aujourd'hui la contestation contre la réforme des retraites. La CGT Chimie appelle tous les salariés du pétrole à se mettre en grève jusqu'à vendredi. Sur certains sites, des intersyndicales se sont déjà consultées pour se coordonner, tous métiers confondus. Alors peut-on craindre une raréfaction du carburant, Annabelle Grelier ?
Avec 8 raffineries et quelques 200 dépôts de carburant, les autorités l'assurent, il n'y aura pas de pénurie. Sans parler des stocks stratégiques, la France a de quoi tenir 90 jours. Des stocks, oui, mais encore faut-il pouvoir y accéder pour ensuite acheminer le carburant au dépôt jusqu'aux stations-service. La grève de 4 jours annoncée par la CGT concerne toute la chaîne, de la production à la distribution et notamment des ports pétroliers du Havre à Marseille. Avec une mobilisation forte, évidemment, la distribution de carburant peut être perturbée dans certaines zones. Mais c'est plus le phénomène de panique des automobilistes qui viendraient tous faire le plein sur cette période qui entraînerait des situations de pénurie. Pour Thierry Dufresne, délégué CGT chez Total, il s'agit avant tout d'envoyer un message de mobilisation générale aux Français.
C'est pas ce qu'on cherche, la pénurie. Pour l'instant, on cherche surtout à faire un grand moment fort dans le pétrole parce que ce qu'on a pu voir, c'est que les raffineries depuis le 5 décembre sont parties en grève un peu en ordre dispersé. Donc finalement, les perturbations étaient très localisées, par exemple en région PACA et en région parisienne. Donc on voulait créer ce mouvement de tous ensemble. Également, montrer à d'autres corps de métier que les raffineurs sont dedans et que seuls les raffineurs, seuls la RATP, seuls la SNCF ne peuvent pas faire reculer le gouvernement. Il faut bien une généralisation de la grève. Et pour ça, secteur après secteur, il faut afficher sa détermination pour justement faire en sorte que les salariés qui pensent que la grève dans leur entreprise n'a pas d'impact, ça leur montre qu'effectivement, il y a un besoin à ce que tout le monde se mette en grève pour que ce soit vraiment flagrant, cette démonstration de force et pour faire reculer le gouvernement. C'est le moment ou jamais, il faut y aller désormais dès maintenant.
La CGT, qui dit avoir reçu le soutien des Gilets jaunes pour le blocage des dépôts, des blocages que le gouvernement a déjà qualifiés d'illégaux et qui pourraient justifier l'intervention des forces de l'ordre pour les lever.
Et à l'instant d'ailleurs, le Premier ministre Édouard Philippe l'assure, les forces de l'ordre seront effectivement mobilisées pour qu'il n'y ait pas de blocage. Et puisque l'on associe grévistes et gilets jaunes, notons que tout conflit social confondu, l'année dernière, en 2019, la fréquentation des musées a baissé dans son ensemble. À Paris, le Petit Palais a ainsi enregistré un recul de 50% de sa fréquentation rien qu'au mois de décembre, moins 25% au Grand Palais. Le ministre de la Culture estime qu'elle n'est pas justifiée. Franck Riester demande ainsi à ce que l'allocation annuelle publique dont bénéficie l'écrivain Gabriel Matzneff ne soit pas renouvelée. Gabriel Matzneff fait l'objet, je vous le rappelle, d'une enquête pour viol sur mineur après la publication d'un livre sur sa relation avec Vanessa Springora, qui avait alors 14 ans. Un hommage aux victimes aura lieu ce matin, rue Nicolas Appert et boulevard Lenoir à Paris. Là où il y a 5 ans, les frères Kouachi avaient abattu 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo. 5 ans après, le pays se souvient et le procès approche devant la cour d'assises spéciale Antoine Marette.
Plus de 2 mois d'audience, du 4 mai au 10 juillet, pour un procès historique. Celui des attaques terroristes des 7, 8 et 9 janvier 2015 contre Charlie Hebdo, une policière municipale à Montrouge et le supermarché parisien de l'Hypercacher. Des attaques qui ont marqué le début d'une longue vague d'attentats en France, 3 ans après les tueries perpétrées par Mohamed Merah. Plus de 2 mois d'audience, mais sans les auteurs directs de ces attentats. Chérif Kouachi, Saïd Kouachi et Amédi Koulibaly ont été tués lors des assauts des forces de l'ordre à Dammartin-en-Goële et à Paris. Les 14 accusés sont donc soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique aux tueurs. Le parquet a retenu contre Mohamed Belloussine et contre Ali Riza Pola les charges les plus lourdes, complicité d'assassinat terroriste. Mais 3 accusés seront très probablement absents de ce procès. Ayad Boumediene, qui était la compagne de Koulibaly, et les frères Mehdi et Mohamed Belloucine. Ils se sont enfuis dans la zone irako-syrienne quelques jours avant les attaques.
Antoine Marette, qui a d'ailleurs réalisé un grand reportage pour France Culture diffusé vendredi dernier. Il a rencontré anciens et nouveaux dessinateurs chez Charlie Hebdo, des témoignages à retrouver sur notre site franceculture.fr. Et puis à ce propos, 5 ans après les attentats, nous accueillerons l'ancien président de la République François Hollande après ce journal à 8h20. Il est votre invité, Guillaume.
Mais avant cela, il est 8h09 sur France Culture. Washington a envoyé une lettre évoquant le retrait de troupes en Irak. Et puis finalement, non.
C'est une fausse note notable dans la crise diplomatique entre les États-Unis, l'Iran et l'Irak. Un courrier officiel a été diffusé hier en début de soirée, évoquant effectivement un retrait des troupes américaines d'Irak. Mais quelques heures plus tard, le secrétaire à la défense américain a fait marche arrière. Explication de notre correspondant Grégory Phillips.
Le courrier est daté du 6 janvier. Le commandant des forces américaines en Irak écrit au vice-ministre irakien de la Défense et il lui annonce ceci. Avec tout le respect que nous devons à la souveraineté de votre pays et comme réclamé par votre Parlement, nous allons repositionner nos troupes dans les prochains jours en vue d'un mouvement de retrait. La lettre est dans un premier temps authentifiée par plusieurs responsables militaires américains, mais très vite le Pentagone rétropédale. Il n'est pas question de retrait. Les 5200 soldats américains déployés en Irak restent dans le pays, tout comme les quelques centaines de renforts dépêchés sur place pour sécuriser l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Le chef d'état-major américain explique « Oui, c'était un projet de lettre. Oui, le courrier a bien été envoyé à quelques hauts gradés irakiens, mais non, il n'était pas signé et n'aurait jamais dû sortir. » Dans cette affaire, l'administration Trump fait pour le moins preuve d'amateurisme, mais pendant quelques heures, le scénario d'un retrait a paru crédible après le vote du Parlement irakien qui dimanche avait voté l'expulsion des soldats US et après la réplique cinglante de Trump. Si les Irakiens nous forcent à partir et que ça ne se fait pas de manière amicale, avait prévenu le président américain, alors nous les frapperons avec des sanctions telles qu'ils n'en ont jamais vu.
Les quelques 6000 soldats américains restent donc en Irak. Bagdad, où nous étions hier dans ce journal auprès de jeunes Irakiens qui ont fêté la mort du général iranien Soleimani, tué par les Américains. Autre son de cloche ce matin avec des miliciens agissant pour le régime iranien en Irak. Leurs mots, vous allez l'entendre, sont très durs. C'est un reportage d'Omar Waman et Gilles Gallinaro lors d'un hommage aux représentants iraniens.
La mosquée Zouïa, à l'ouest de Bagdad, est bien trop petite pour accueillir cette cérémonie funéraire en hommage aux deux chefs militaires exécutés par l'armée américaine à qui Hassan, 24 ans, voue une haine féroce.
Si besoin, je le jure au nom de Dieu, je suis prêt à porter une ceinture d'explosifs et à y aller.
Ce jeune vient du quartier déshérité de Sadr City, qui fournit de très nombreux combattants à la milice chiite Hashed al-Shaabi, bras armé de l'Iran.
Ce sont nos martyrs qui nous ont libérés, c'est notre sang versé qui a sauvé l'Irak.
Le sang versé contre les djihadistes, précise Hussein, qui a passé la vingtaine et déjà des années de guerre derrière lui.
J'ai combattu Daesh pendant 4 ans et partout, de Samarra jusqu'à Abu Kamal en Syrie. Contre les djihadistes, c'était clair. Tandis qu'avec les Américains, nous avons affaire à des hypocrites, à des menteurs.
Un ennemi bunkérisé dans la zone verte de Bagdad est constamment harcelé par les miliciens aux ordres de l'Iran.
Omar Waman, accompagné de Gilles Gallinaro à Bagdad pour France Culture. Et c'est en hommage au général Soleimani qu'en Iran maintenant, une foule se rassemble en ce moment dans le centre du pays à Kerman où doit être enterré dans la journée Qassem Soleimani. La Turquie est en train de déployer ses troupes en Libye. Le président Recep Tayyip Erdogan veut ainsi barrer la route au maréchal Haftar qui marche vers Tripoli contre le gouvernement d'Union nationale. Le maréchal Haftar qui a signé hier une importante victoire. Il s'est emparé de la ville de Sirte en quelques heures à peine, Maureen Mercier.
C'est une victoire hautement symbolique. Sirte, la ville natale de Muammar Kadhafi, c'est là que l'ex-dictateur a été abattu par ceux qui, en 2011, rêvaient d'un changement de régime. Voir entrer Haftar à Sirte, c'est voir s'effriter nos rêves de démocratie, explique un jeune combattant joint par téléphone. Pour lui, comme pour tant d'autres, Haftar, c'est Kadhafi en pire. J'ai perdu mon meilleur ami qui tentait de défendre la cité, témoigne un jeune infirmier, 22 ans, de la ville voisine de Misrata. Les troupes de Misrata, ce sont les adversaires les plus coriaces que le maréchal Haftar a rencontrés depuis qu'il a lancé en avril dernier son offensive pour s'emparer du pays tout entier. Ce sont elles qui contrôlaient Sirte après l'avoir libéré des mains de l'État islamique. Les troupes de Misrata espèrent désormais voir arriver rapidement les soldats turcs en renfort. Une certitude, le conflit ne peut désormais que s'intensifier. « Je m'étais juré de ne plus reprendre les armes », raconte un jeune prof de français, la trentaine. « Mais je ne peux laisser Haftar l'emporter ». Ce jeune homme, comme tant d'autres de sa génération, s'apprête à affronter une nouvelle guerre, la énième depuis la révolution de 2011.
Maureen, merci. Quelques heures de répit, quelques heures de pluie, en tout cas en Australie en ce moment, avant la reprise de fortes chaleurs dans les jours qui viennent. Au moins 24 personnes sont mortes depuis le début du mois de septembre à cause des immenses incendies dans le pays. Un demi-milliard d'animaux également, selon une étude de l'Université de Sydney. Hier, de gigantesques fumées ont atteint le Chili et l'Argentine, près de 12 000 km plus loin. Le temps maintenant en France métropolitaine. La pluie va balayer le pays aujourd'hui en son centre, de la Bretagne jusqu'à l'Auvergne. Ailleurs, le temps sera nuageux avec quelques éclaircies par moment. Comptez 3 degrés ce matin à Besançon, 4 à Lyon, 6 degrés à Lille, 10 degrés à La Rochelle et près de la Méditerranée.
Merci Clara Lecoq-Réal. Il est 8h15 sur France Culture. Dans quelques instants, un invité exceptionnel, François Hollande, l'ancien président de la République, évoquera avec nous les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère. C'était il y a 5 ans. Et puis un billet politique avec vous, Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Vous évoquez la concertation avec les syndicats menée aujourd'hui par le Premier ministre.
Édouard Philippe, laissé seul sur le champ de mine par Emmanuel Macron, mais un président peut-il encore se tenir en retrait?
Et puis vous retrouverez les camarades habituels, Hervé Gardette, dans une demi-heure environ, sur les incendies en Australie. Mathilde Serrel, qui évoquera les Golden Globes dans sa théorie culturelle. Et enfin, Aurélien Bélanger, qui lui évoquera l'appropriation culturelle dans sa conclusion. 8h16, dans quelques instants, le billet politique.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Tolkien, voyage en terre du milieu. Lorsqu'en 1937, Tolkien publie Le Hobbit, il est loin d'imaginer que l'ensemble de ses récits fera de lui l'une des figures littéraires les plus importantes du XXe siècle. Dévoilant à la fois l'homme et son œuvre, la plus grande exposition jamais réalisée sur le sujet réunit 300 pièces exceptionnelles, avec notamment de nombreux manuscrits et dessins originaux de l'auteur. Tolkien, voyage en terre du milieu, jusqu'au 16 février, à la BNF François Mitterrand, à Paris. Un partenariat France Culture et France Télévisions.
8h16. Le billet politique, Frédéric Saïs, le double visage de l'exécutif.
Oui, en parcourant le journal Le Monde, on apprend que le président de la République a décidé de prendre du champ quant à la réforme des retraites. Il souhaite laisser son Premier ministre diriger les opérations. Selon le quotidien, le président, lui, a d'autres tâches inscrites à son agenda. Pour ce mois de janvier, Emmanuel Macron a prévu des rendez-vous pour évoquer l'écologie du quotidien, ainsi que la lutte contre le communautarisme. Bref, il a d'autres priorités. Alors l'objectif de la manœuvre n'est pas très complexe. On l'avait évoqué ici il y a quelques jours, placer Édouard Philippe en position de fusible et épargner au chef de l'État l'impopularité qui accompagne cette réforme. Voici la pratique jupitérienne délaissée. Au dieu grec, le président préfère désormais l'adage latin « de minimis non curat praetor », un chef ne s'occupe pas des détails. Oui, mais est-ce seulement possible dans la Ve République? Peut-on imaginer une dissociation entre les deux têtes de l'exécutif, le président et le chef du gouvernement, comme si l'un ne commandait pas à l'autre, comme si le second n'était pas nommé par le premier? Bien sûr, le cas est différent sous une cohabitation, François Mitterrand l'avait bien compris. Il avait même joué de ce fameux échange face à Jacques Chirac entre les deux tours de la présidentielle.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Et c'était en 1988, sauf que depuis la cohabitation est devenue presque impossible, l'alignement du mandat du président et de celui des députés à 5 ans, et surtout le calendrier électoral qui lie la présidentielle et les législatives, tout cela interdit désormais toute cohabitation, sauf grave crise ou énorme surprise. Certes, la Constitution autorise en réalité à dissocier Matignon et l'Élysée. N'est-il pas précisé dans l'article 20 que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Mais dans la pratique, le Premier ministre au mieux la conduit et ne la détermine qu'assez peu, même si là encore cela dépend des personnalités, du rapport de force. Sous votre quinquennat, François Hollande, sans doute Manuel Valls n'a-t-il pas passé son temps à seulement exécuter docilement toutes vos demandes? Peut-être est-ce pour cela d'ailleurs que vous proposez dans votre dernier livre de supprimer le poste de Premier ministre. D'autres ont prouvé que Matignon n'était pas seulement le bureau d'un collaborateur présidentiel, comme le suggérait Nicolas Sarkozy. Par exemple, le Pompidou Premier ministre de De Gaulle est l'artisan incontestable des accords de Grenelle qui répondent à la révolte de mai 68.
Le but de cette réunion d'une exceptionnelle importance était de trouver une solution à la crise actuelle que traverse notre pays, de mettre fin au vaste mouvement de grève qui a créé une véritable paralysie de notre économie.
Autre exemple, le Villepin, Premier ministre, et l'ouvrier inarrêtable du CPE, le contrat première embauche, pendant que le président Chirac tente par tous les moyens de freiner ses ardeurs. Mais aujourd'hui, alors que l'attention politique et médiatique est concentrée comme jamais sur le président, sur ses faits et gestes, peut-il encore faire comme s'il regardait ailleurs? Peut-il se prétendre responsable mais pas coupable des choix de son Premier ministre, voire responsable mais pas comptable des orientations politiques? Voilà en tout cas avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe venu le temps d'un gouvernement en stéréo, deux tonalités différentes chez les deux voix de l'exécutif, ce qui peut donner aussi bien la polyphonie que la cacophonie.
Merci Frédéric Saïs pour ce billet politique qu'on va retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr. On va faire immédiatement réagir notre invité François Hollande. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Merci d'être ici. Votre réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïs?
Je parle d'expérience. J'ai été président pendant 5 ans et j'ai compris que cette coexistence d'un président de la République élu pour 5 ans et investi par le pays d'une mission et d'un Premier ministre dont on ne voit plus tellement quel est le rôle, exécutant, collaborateur ou essayant de se différencier, créer une confusion dans le pays et peut-être même des retards dans la prise de décision. C'est la raison pour laquelle, après cette expérience et au fur et à mesure d'une réflexion qui a abouti aujourd'hui, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique du quinquennat et de l'inversion du calendrier. Le président est le chef de l'exécutif. C'est lui qui doit mener les réformes qu'il a présentées au pays et ne peut pas déléguer comme ça ses pouvoirs aux fonctions des circonstances. Tantôt il intervient direct en mot, tantôt il se met en retrait. Pour prendre cet exemple, Emmanuel Macron, président de la République, a été élu sur une promesse qu'il avait faite de faire une réforme des retraites. À partir de là, il lui appartient de la mettre en œuvre et il ne peut pas dire qu'il en est éloigné. Il est forcément directement comptable, responsable et éventuellement coupable.
Et alors là, qu'est-ce que ça permettrait de faire si cette réforme était effective? Est-ce que vous pensez finalement qu'Emmanuel Macron utilise Édouard Philippe comme un fusible au gré des circonstances? Dites-vous ce qui signifie qu'il le fait lorsque cela l'arrange?
Il s'était déjà beaucoup exprimé sur les retraites, puis ensuite il s'est mis un peu de côté pour revenir ensuite à la fin, j'imagine, comme décideur, parce que les Français, ce qu'ils attendront, c'est pas le mot du Premier ministre, le compromis que j'espère être l'issue de ce conflit. Ce qu'ils attendront, c'est la position du président de la République, puisque c'est lui qui a été élu par les Français. Donc l'idée qu'il y aurait une forme de prise de distance ou de hauteur ne tient pas. Il y a dans la République un principe de responsabilité.
Sur le fond, vous aviez vous-même mené une réforme des retraites en 2013. À l'époque, il n'y avait pas eu ces heurts sociaux. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'elle était moins ambitieuse, moins profonde qu'aujourd'hui?
Oui, elle était dans le système actuel de répartition, c'est-à-dire les actifs cotisant pour le paiement des pensions. Ce que j'avais mis en place avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, c'était Marisol Touraine qui était ministre, c'était une concertation avec les syndicats qui n'avait pas duré 2 ans, qui avait duré quelques semaines et qui avait posé 2 principes qui permettaient de comprendre ce que nous faisions dans la justice. Le premier, c'était, c'est vrai, quand l'espérance de vie s'allonge, il est assez légitime que la durée de cotisation elle-même puisse être élargie, ce qui a été intégré dans la loi. Mais nous avions introduit la pénibilité.
Et donc là, c'est un problème de fond ou de méthode ?
Ah là, je pense que c'est un problème et de méthode et de fond. C'est-à-dire, la méthode, la concertation a duré 2 ans, mais n'a rien permis de clarifier. Au contraire, elle a introduit beaucoup de flou. Et de fond, parce que ce qui est contesté, notamment à travers l'âge pivot ou la remise en cause des critères de pénibilité, c'est précisément le fait que cette réforme, qui était vraie d'ampleur globale, n'apporte pas ni les garanties de pérennité, c'est-à-dire le financement, ni les garanties de justice. C'est ce qu'il faut absolument obtenir dans la négociation qui maintenant est ouverte. Mais enfin quand même, 34 jours de conflit, et c'est aujourd'hui seulement que l'on est peut-être, c'est même pas encore sûr, vers la forme d'une éventuelle issue, en attendant, comme je l'ai dit, que Frédéric Seix a précisé, que le président de la République parle.
8h25 sur France Culture.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Nous sommes en compagnie de François Hollande pour évoquer 5 ans depuis l'attentat contre Charlie, contre l'attentat sur l'hypercachère. Il y a 5 ans, Monsieur le Président, que faisiez-vous lorsque vous avez appris l'attentat contre Charlie Hebdo ?
Le 7 janvier 2015, j'étais à mon bureau à l'Élysée. Et vers 11h plus, j'ai été informé par une dépêche d'agence et puis par mes propres services qu'il y aurait une attaque contre les locaux de Charlie et des hommes se seraient introduits dans l'immeuble sans qu'on sache à ce moment-là l'ampleur du drame et de ce qui s'y produisait. Et il se trouve que Patrick Peloux, qui est un ami et qui est à la fois... ou était à la fois membre de la rédaction de Charlie et aussi dans les services d'urgence, me téléphone, parce qu'il avait mon numéro de portable, et me décrit la scène qu'il voit comme médecin. C'est-à-dire une rédaction décimée, des amis à terre, suffoquant, d'autres déjà morts, et il est en sanglots, et je comprends que nous ne sommes pas simplement devant une attaque qui aurait eu que des conséquences matérielles. Nous sommes devant une tragédie, c'est-à-dire un attentat terroriste. Je ne sais pas encore mené par combien de personnes. Et la seule question que je me pose à ce moment-là, c'est d'aller le plus rapidement sur place et de pouvoir à la fois constater l'ampleur de ce qui vient de se produire, faire la traque aux terroristes qui viennent de commettre cet acte innommable et de m'exprimer devant les Français. Et après quelques minutes où je fais en sorte que la sécurité puisse être autant qu'il est possible assuré, je me rends sur les lieux. Et j'assiste à ce moment-là au travail des secours et je vois les blessés sortir, quelquefois dans des états désespérés. Et je sais que beaucoup de mes amis, parce que dans la rédaction de Charlie Hebdo, j'avais des amis, sont morts.
François Mitterrand disait que la première qualité d'un chef de l'État, c'était l'indifférence. À ce moment-là, est-ce que... on peut justement mettre de côté son émotion pour raisonner de manière rationnelle. Qu'est-ce que vous avez fait, François Hollande, Monsieur le Président ?
Il ne faut pas... c'est impossible d'être indifférent quand il se produit un acte de cette nature et de cette ampleur. Indifférent aussi par rapport aux conséquences. Une société comme la nôtre, frappée parce que la liberté d'expression a été atteinte, c'est un bouleversement dans notre société. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument que notre pays fasse bloc, et il a fait bloc. Mais il faut montrer, non pas de l'insensibilité, mais de l'impassivité, c'est-à-dire ne pas montrer aux terroristes qui ont voulu nous porter cette attaque que nous sommes nous-mêmes atteints, et que nous sommes plus forts qu'eux, non pas simplement par une action d'autorité, elle doit devenir, ou de fermeté, elle est nécessaire, mais justement par une action d'humanité et d'unité. Moi, ce qui me paraissait essentiel dans cette période, c'est de dire aux Français que c'était leur force d'être unis, et ils l'ont été, après aussi l'hypercachère, quand il y a eu cette grande manifestation du 11 janvier, qui pour moi est la plus grande fierté que nous pouvons aujourd'hui démontrer après ces attentats.
Il y a aussi eu des polémiques, Charlie Hebdo était manifestement mal gardé, Charb avait fait une demande de port d'armes, laquelle lui avait été refusée. Monsieur le Président, est-ce que là, il n'y a pas clairement eu des dysfonctionnements? Est-ce que l'appareil d'État, dans son intégralité, n'a pas eu des regrets, des remords après ces attentats?
Ces questions, elles sont légitimes et les familles les ont posées. Il ne s'agissait pas d'armer les journalistes. Qu'est-ce qu'on dirait si les journalistes maintenant devaient sortir avec des armes ou faire leur travail avec des armes? Il s'agissait de savoir si le dispositif de sécurité était au bon niveau. Il y avait un policier qui était parmi la rédaction. Ce policier a été tué. Il y en avait un autre qui était normalement à disposition. Et aujourd'hui, tous les journalistes de Charlie, tous ceux qui ont été à un moment ou un autre blessés, sont protégés. Parce que c'est nécessaire de les protéger, mais l'expérience prouve que même avec une protection, la vulnérabilité est toujours là. Donc la menace est toujours là. Mais c'est vrai que nous devons élever encore notre niveau de protection.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que, et Rhys le dit très bien, quand même, savoir qu'aujourd'hui en France, pour faire son travail de journaliste ou de dessinateur, il faille être protégé, est un problème. Car la liberté d'expression ne demande qu'à être protégée par les citoyens, pas par les policiers. Et pourtant, il faut le faire.
Frédéric Saïs, quand vous parlez de cette année 2015, on vous a souvent entendu utiliser une expression, vous dites que le pays aurait pu basculer. Concrètement, ça voulait dire quoi, un pays qui bascule?
Un pays qui bascule, ça veut dire un pays qui se déchire, qui se divise, qui cherche des coupables là où ils ne sont pas. C'est-à-dire, y compris dans les pratiquants d'une religion. C'est un pays qui doute de lui-même, et qui pense qu'il faut bafouer l'état de droit pour être plus en sécurité. C'est un pays qui considère que à ce moment-là, il faut introduire une république des suspects, c'est-à-dire mettre des gens, avant même qu'ils n'aient commis des actes, dans une situation de privation de liberté, une surenchère dans l'extrémisme. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé ni après Charlie, l'hypercachère, ni après le Bataclan. Et je peux ici dire que le gouvernement, ma présidence, ont veillé à ce que les principes d'unité, d'état de droit puissent être préservés, même avec l'état d'urgence.
La déchéance de
provisoire.
La déchéance de rationalité, de nationalité.
Qui peut être les deux d'ailleurs.
Effectivement. La déchéance de nationalité qui a été donc mise au devant de la scène comme l'une des solutions préconisées par vous-même, François Hollande, Monsieur le Président. Est-ce que ça n'était pas justement une manière d'en rabattre contre l'État de droit?
Oui, la déchéance de nationalité existe dans notre droit. Il y a des personnes, justement, qui, après les attentats de Charlie, ont été déchus de leur nationalité. Même si ça n'avait pas de rapport avec les attentats de Charlie, mais c'était des personnes qui avaient commis des délits terroristes. Mais c'était dans une situation un peu particulière, c'était ceux qui avaient acquis la nationalité française, les naturalisés. Ce que, à un moment, par un souci de consensus après le Bataclan et les terrasses et le Stade de France, j'avais suggéré, c'était que l'on puisse élargir la déchéance de nationalité. Ça n'a pas été compris, ça a même été regardé, alors même que ça ne concernait que les crimes terroristes, ça a même été regardé comme effectivement un recul de l'état de droit, et c'était pas le cas, mais... Vous savez, ce qui compte, c'est pas tellement ce qui est la réalité, c'est le sentiment. Il ne fallait pas donner le sentiment de reculer par rapport à l'état de droit.
Ça a même été perçu comme une manière de revenir à des symboles, à un temps où on pouvait être apatride. Une partie de votre camp, François Hollande, Monsieur le Président, a été en opposition très vive à cette mesure.
Oui, c'est pour ça que dès lors que il y avait cette distinction qui était faite entre les doubles nationaux et ceux qui n'avaient que la nationalité française, certains avaient dit, finalement, il faut retirer aussi la nationalité française aux Français, ce qui aboutissait à l'apatridie. J'en avais discuté avec Robert Badinter, qui était là il y a quelques minutes, on avait considéré que c'était pas possible d'aller jusque-là, donc on en est resté à l'état de droit d'aujourd'hui, qui prévoit, je le confirme, une déchéance de nationalité dans certaines circonstances.
Toujours dans les polémiques suivant l'attentat, il y a eu l'idée, en tout cas la thèse, qu'une partie de la gauche aurait eu des tentations ou des tendresses coupables à l'égard d'une certaine frange de l'islamisme, en tout cas ceux qu'on appelle des islamo-gauchistes. Est-ce que c'est un terme que vous reprendriez ?
Non. Moi, je ne reprends pas ces termes-là, mais il n'y a aucune faiblesse à avoir. Face à l'antisémitisme, il n'y a pas à regarder des degrés. C'est une question de principe, j'allais dire presque de une question fondamentale. Il n'y a pas des excuses à donner à l'antisémitisme ou des justifications à l'antisémitisme comme au racisme. Donc il faut être extrêmement clair, je l'ai toujours été, sans avoir besoin d'en rajouter, mais il faut dénoncer tous les comportements, tous les actes, tous les propos antisémites, sans qu'on puisse se dire qu'il y aurait, par rapport à telle ou telle situation, la situation du Proche-Orient notamment, la question palestinienne, à avoir quelques faiblesses par rapport à cette réalité.
Ça, c'est la question donc de l'antisémitisme. Pour la question des caricatures de Mahomet, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de cela pour Charlie Hebdo, est-ce que vous ne considérez pas qu'il y avait une forme de facilité de faire des caricatures pour blesser des gens qui étaient déjà stigmatisés ? C'est ce que disait une partie de la gauche, François Hollande.
Il se trouve qu'avant d'être président de la République, j'étais premier secrétaire du Parti Socialiste. Ça existait, le Parti Socialiste est une force qui d'ailleurs, à mon avis, doit rester une force. Mais j'avais témoigné au procès, car il y avait eu un procès contre les caricatures que Charlie avait pu faire. Et j'avais témoigné au procès pour Charlie, pour la liberté, et faire en sorte que ceux qui menaient ce procès puissent être déboutés de leur action, ce qui fut le cas. Et j'étais intervenu, vous retrouverez mes propos, pour dire que justement, il n'y a pas de négociation sur la liberté. Il n'y a pas un droit à respecter en particulier les religions. Vous savez qu'il y a encore des pays où le blasphème est condamné. 60 pays condamnent encore le blasphème. Donc en France, il n'y a pas de condamnation du blasphème. À partir de là, cette liberté-là, qui n'est pas la haine, parce que c'est ça la grande différence, qui a été évoqué au moment de Charlie en disant « Oui, mais vous êtes finalement implacable par rapport à l'antisémitisme, mais quand même, sur d'autres propos, vous vous rappelez d'un certain humoriste de triste réputation, on disait « Mais là, vous êtes extrêmement dur avec lui, et puis vous êtes quelquefois tolérant par rapport à... »
Non, on parle de Dieudonné. Hein.
Mais oui, vous avez compris. Je vous remercie pour cette traduction. Mais non, c'est la haine qui doit être condamnée. C'est pas de rire, c'est pas de dénoncer ou parfois de se moquer. C'est la haine des pratiquants d'une religion.
Frédéric Saïs.
Vous avez beaucoup insisté à l'époque sur la notion d'unité nationale. C'est un mot qui revenait évidemment souvent dans vos discours. Vous avez aussi entendu lors de ses vœux Emmanuel Macron promettre de lutter, je cite, contre les forces qui divisent la nation. Le gouvernement s'interroge notamment sur l'interdiction des listes communautaristes aux élections municipales. C'est possible de le faire ? Vous étiez posé ces questions, vous ?
Non, moi je ne m'étais pas posé la question pour les élections municipales, peut-être parce qu'il y en avait pas au moment où ces attentats avaient eu lieu, mais il y a des règles dans la République. Moi, ce que je déplore parfois, et j'ai pu commettre moi-même ce défaut-là, c'est d'imaginer toujours qu'il faille ajouter une loi à des lois existantes. Ce qu'il faut, c'est appliquer les lois existantes. Et par exemple, s'il se présentait des listes de nature communautariste affirmées comme telles, c'est-à-dire écartant des citoyens parce qu'ils ne seraient pas pratiquants d'une religion, ça tomberait sous le coup de la loi.
Sur l'antisémitisme, là aussi, l'attentat contre Charlie Hebdo, puis l'attentat contre l'hypercacher, monsieur le Président, est-ce qu'on avait sous-estimé, sous-évalué la menace contre les Juifs en France ?
Ah non, pas moi en tout cas, parce que il y avait depuis des années des actes et propos antisémites et leur nombre, hélas, de cesser de progresser. Et il y a eu aussi des drames qui ont concerné des Juifs. Le jeune Halimi qui avait été lâchement assassiné, qui nous laissait penser qu'il y avait une haine qui s'était introduite. Et puis Charlie avait été, on parlait du procès, qui avait été plusieurs fois dénoncé. Au Danemark, il y avait eu aussi des attentats qui avaient été commis. Donc on savait que les Juifs de France pouvaient était même soumis à un certain nombre de menaces et d'actes antisémites. Donc à partir de là, nous étions tout à fait conscients qu'il pouvait y avoir, et ça s'est hélas produit, des attaques contre des lieux de culte. Et c'est pour ça que, avec les gouvernements aussi bien Valls que Cazeneuve, nous avons protégé tous les lieux de culte, aussi bien les synagogues que les mosquées ou les églises. Mais c'est vrai que c'était à un moment les synagogues qui étaient particulièrement visées. Les mosquées l'ont été. On a eu aussi, il y a encore peu de temps, des actes qui ont été commis contre des mosquées. Donc c'est vraiment des actes anti-musulmans, antisémites, des actes anti quelquefois catholiques, c'est arrivé aussi. Ces actes-là doivent être sévèrement punis et dissuadés.
Les attentats se succèdent en France. Il y a eu de nombreuses attaques au couteau encore récemment, Monsieur le Président. Est-ce que on peut faire quelque chose? Est-ce que on est condamné à les voir se succéder, ces attentats?
Alors, ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que on n'est plus devant des réseaux terroristes aussi constitués quand Daesh était une organisation qui occupait un territoire et qui organisait ces attentats. Là, on est en face d'individus qui commettent sous pression, dans le cadre d'une radicalisation, mais aussi d'une ambiance, qui commettent des agressions et qui le font avec la référence parfois de l'État islamique. Mais nous n'avons plus à ce niveau des réseaux, parce que nous avons démantelé la plupart, parce que Daesh s'est écroulé en Syrie et en Irak, nous n'avons plus la même organisation en face de nous. Mais la menace, elle est toujours là, même si on a vu par exemple qu'à Nice, le 14 juillet 2016, c'est un individu seul qui, avec un camion, commet un acte terrible.
Vous venez d'évoquer Daesh. La situation au Proche-Orient aujourd'hui, Monsieur le Président François Hollande, qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Une très grave préoccupation. Il y avait déjà une tension entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. La décision de Donald Trump d'éliminer le général Soleimani ajoute encore à cette tension. Et ça a des conséquences très, très lourdes que je veux ici évoquer. D'abord, le régime iranien sort renforcé de cette épreuve. On l'a bien vu avec ces manifestations. Donc si l'intention était d'affaiblir l'Iran, c'est raté. Et de ce point de vue, Donald Trump a pris une grave responsabilité. Deuxièmement, même si c'est une bourde, maintenant on apprend qu'une lettre a été envoyée pour le retrait des forces américaines d'Irak et donc de la coalition. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'objectif qui était de lutter contre Daesh responsable des attentats, y compris à Paris, eh bien, on voit bien que Daesh peut ressurgir. Enfin, pour l'Irak, qui connaissait un mouvement de contestation des dirigeants, y compris d'influence iranienne, eh bien, l'Irak est mis dans une situation extrêmement douloureuse, avec une jeunesse qui ne sait pas où aller. Donc je pense que de ce point de vue, bien sûr qu'il faut éviter l'escalade, bien sûr qu'il faut favoriser le dialogue, mais à un moment, il faut aussi que les responsabilités soient évoquées. Je pense que Donald Trump, depuis maintenant qu'il est président des États-Unis, a mis le monde en danger. Et si on ne le dit pas suffisamment, on ne pourra pas faire avancer la cause qui est la nôtre, c'est-à-dire d'une Europe qui a des valeurs, qui a des principes, et d'une France qui sait, à un moment, s'opposer à ce type de dérive.
L'Iran n'était pas inerte, néanmoins.
Bien sûr que l'Iran a commis des actes tout à fait dangereux, crée une tension dans la région. J'évoquais la Syrie.
Une présence iranienne nombreuse. Est-ce qu'il n'y a pas une présence?
La présence du Hezbollah, de l'Iran en Syrie est évidente.
Et est-ce qu'elle est légitime?
Elle n'est pas légitime. Et ce n'est pas parce que nous considérons que l'Iran commet commet des actes graves dans la région qu'il faut se mettre à ce niveau et utiliser des moyens comparables.
Mais qui est responsable de l'escalade, selon vous? On a vu qu'Emmanuel Macron avait affiché son soutien plein et entier avec Washington. C'était la bonne position?
Je pense que l'Iran est responsable d'une tension déjà depuis plusieurs années, mais que la décision qu'a prise Donald Trump est plus que malencontreuse, elle est grave. Et à un moment, il faut le dire. On ne peut pas être solidarité à l'égard de ce qui vient de se produire, qui est une escalade extrêmement dangereuse. Donc à partir de là, le rôle de la France, c'est aussi, à un moment, de dire les responsabilités. Celle de l'Iran est là,
elle est lourde, mais aussi de dire qu'aux États-Unis, on ne commet pas des actes de cette nature sans en mesurer les conséquences.
François Hollande, vous restez avec nous. Je vous présente mes camarades qui viennent prolonger cette émission. Aurélien Bélanger, Mathilde Serrel et Hervé Gardel. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Hervé, de quoi allez-vous nous parler ?
De l'Australie.
Mathilde Serrel.
De l'importance des Anglais.
Et enfin, Aurélien Bélanger.
De la crise d'identité de la gastronomie française.
8h43 sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Dimanche 12 janvier à 11h, en direct et en public de l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris, l'esprit public d'Émilie Aubry. Avec Christine Ockrent, journaliste, Daniel Cohen, économiste, Dominique Régnier, politologue, directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Plantu, dessinateur au Monde. Entrée gratuite, réservation au 01 44 85 40 40. Plus d'infos, franceculture.fr.
8h44 sur France Culture. Hervé Gardette, votre transition depuis le début de la saison des incendies en Australie. 6 millions d'hectares de végétation ont brûlé. Les pertes animales sont estimées à 1,5 milliard. Nous sommes entrés dans le Pyrocène.
Depuis son point le plus au nord jusqu'à son extrémité la plus au sud, l'Australie mesure 3680 km. Elle est encore plus étendue dans sa largeur, environ 4000 km. En décalquant cet énorme bloc et en le superposant à la surface de l'Europe, on se rend compte que le continent australien recouvre et absorbe toute l'Union européenne, qu'il déborde même largement sur son flanc est. La comparaison est encore plus spectaculaire et devient effrayante si l'on choisit de prendre pour modèle la carte des incendies publiée avant-hier sur Instagram par un photographe australien. À partir des relevés effectués par la NASA, Anthony Hersey a recréé une image qui recense l'ensemble des zones touchées par les feux depuis un mois, comme si l'Europe tout entière était la proie des flammes. Alors le procédé est certes trompeur puisqu'il additionne sur le même cliché des incendies déjà éteints avec ceux encore en cours. Par ailleurs, le choix des couleurs rend le visuel particulièrement angoissant. À l'orange éclatant des incendies répond le noir inquiétant du reste du pays, un noir charbonneux, comme si tout ce qui ne brûlait pas était déjà consumé. On croirait voir un pays en cendres, une reproduction du Mordor, cette terre de désolation imaginée par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Les images qui nous viennent d'Australie frappent d'autant plus qu'elles renvoient à des représentations que seule la fiction semblait pouvoir incarner. Dans le New York Times, le romancier australien Richard Flanagan y voit un croisement entre Mad Max et Le Dernier Rivage, une dystopie, Le Dernier Rivage, sur la vie après une catastrophe nucléaire. Les photos des incendies lui rappellent des tableaux presque médiévaux, mi-Bruegel, mi-Bosch, dans lesquels le jour se transforme en nuit, où la lueur rouge annonce l'imminence de l'enfer. Les photos prennent un aspect sépia du fait de la poussière des incendies, elles en deviennent presque irrespirables. Dans une interview au site Reporter, la philosophe Joël Zask, auteur de « Quand la forêt brûle », relève qu'en Nouvelle-Zélande, les glaciers ont pris une couleur caramel à cause de la cendre de foyers australiens. Si les feux des derniers mois en Amazonie avaient suscité une forte émotion internationale au prétexte que c'était le poumon de la planète qui était en train d'être dévasté, il me semble que ce qui se passe en Australie renvoie à une autre angoisse, un air de fin du monde, pour reprendre un des titres de Libération, une frayeur d'autant plus forte que les flammes qui ont dévoré le ciel encerclent et piègent ceux qui tentent de leur échapper. Rappelons que ce pays, malgré ses dimensions, est quand même une île. Joël Zask, à nouveau, toujours dans Reporter. Les incendies australiens vont au-delà de tout ce qu'elle a pu imaginer. On voit un pays partir en fumée. On estime, ajoute-t-elle, qu'en 2050, 50% des municipalités françaises seront exposées aux méga-feux. Nous ne vivons pas seulement dans l'Anthropocène, mais dans le Pyrocène, autrement dit une nouvelle et dévastatrice ère du feu. Une controverse a vu le jour pour savoir si les incendies australiens étaient directement liés au réchauffement climatique ou bien favorisés par de nouvelles règles environnementales conduisant à ne pas entretenir le bush, ce mélange de buissons et d'arbres épars, pour préserver la biodiversité. Ce qui est certain, c'est que sans les températures extrêmes que connaît l'Australie en ce moment, les feux ne seraient pas aussi violents et que par ailleurs, la disparition de la végétation et d'une partie de la biodiversité va accélérer le phénomène de réchauffement. C'est un cercle vicieux, le pays est comme une nasse, il va falloir vivre avec les feux. Dans son article pour le New York Times, Richard Flanagan relève qu'en Nouvelle-Galles du Sud, un des États australiens les plus touchés par les incendies, une librairie a changé son enseigne. On peut y lire ceci désormais. Les romans de fiction post-apocalyptique se trouvent désormais au rayon actualité. Bonne année.
Merci Hervé Gardette. Mathilde Serrel, les Golden Globes avec aujourd'hui une antichambre, mais aussi une antidote pour les Oscars.
Oui, s'il est un signal à retenir des Golden Globes 2020, vous avez peut-être eu la possibilité de voir les images qui ont circulé donc sur Internet dans la journée hier ou pendant la nuit de dimanche à lundi. En tout cas, les récompenses remises par l'Association de la presse étrangère Hollywood, eh bien, ce n'est pas tant la défaite de Netflix qui est à retenir que la victoire des Anglais. Sur 34 nominations, cinéma et séries confondues, la plateforme, qui partait favorite, a certes dû se contenter seulement de 2 prix. Mais si le sacre de Netflix n'a pas eu lieu, en revanche, la cérémonie a incontestablement couronné les Britanniques. Et à travers eux, les Golden Globes se sont fait non plus l'antichambre, mais l'antidote des Oscars, voilà ma théorie. Le premier effet antidote des Anglais s'est d'abord fait sentir sur le plan de la cérémonie elle-même, animée pour la 5e et dernière fois sur la chaîne américaine NBC par l'humoriste britannique Ricky Gervais. Créateur de The Office, la série anglaise qui a porté le malaise et la gênance, pardon pour ce barbarisme que j'affectionne particulièrement, au rang d'art suprême. Ricky Gervais n'était pas là pour bousculer gentiment le gratin hollywoodien installé devant des seaux à champagne. Dans son monologue d'introduction, qui est peut-être le plus corrosif de l'histoire du genre, Ricky Gervais, une bière fraîche posée devant lui, avait la ferme intention de voir l'assistance avaler son hypocrisie de travers. Regardez pour qui vous travaillez, Apple, Disney, Amazon. Et si l'EI lançait un service de streaming, vous appelleriez votre agent. Si vous recevez un prix ce soir, s'il vous plaît, ne délivrez pas de discours politique. Vous ne savez rien du monde réel. La plupart d'entre vous a passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg. Donc prenez votre prix, félicitez votre agent, remerciez Dieu et allez vous faire... qu'on n'entend pas car c'est un mot interdit à la télévision américaine. Mais l'animation caustique de Ricky Gervais n'est pas le seul antidote anglais aux Oscars qu'on a pu voir dans cette cérémonie des Golden Globes. Le biopic Rocketman sur Elton John, qui a apporté 2 nouvelles récompenses aux Britanniques, constitue en fait l'opposé du biopic sur Queen, récompensé aux derniers Oscars, tant l'homosexualité y est cette fois abordée frontalement. Dans la catégorie Reine, meilleur film dramatique et meilleur réalisateur, c'est encore une fois un Anglais et pas des moindres qui l'a emporté. Et devant Martin Scorsese, Sam Mendes, récompensé pour son film 1917. Souvenez-vous, Sam Mendes, c'est bien le réalisateur qui aura merveilleusement saisi toute l'hypocrisie de la société américaine dans American Beauty. Parmi ces victoires anglaises, on pourrait encore citer Olivia Colman pour son rôle dans la série The Crown, mais surtout le triomphe de Phoebe Waller-Bridge. L'actrice et réalisatrice a été 2 fois récompensée pour sa série Fleabag, dérangeante, féroce, autocritique. Elle est l'antidote en soi à tous les modèles de séries et d'héroïnes féministes. La même Phoebe Waller-Bridge s'est d'ailleurs vue confier l'écriture du prochain James Bond. Preuve que ces Golden Globes sont la parfaite illustration de ce que peuvent faire les Anglais pour le patient hollywoodien.
Merci Mathilde Serrel. Alors l'actualité du cinéma, François Hollande, ce sont donc ces Golden Globes. Il y a aussi, et ça c'est en marge du cinéma, mais ça concerne le cinéma, le procès Weinstein. Et puis dans le domaine à la fois de la culture et des violences faites aux femmes, aux enfants, il y a en France une affaire autour de Gabriel Matzneff, un écrivain, avec le témoignage de Vanessa Springora, l'une de ses victimes. Votre point de vue là-dessus ?
Parce qu'il faut avoir un point de vue, c'est innommable, c'est inadmissible, c'est insupportable de savoir ce que Matzneff a fait pratiquement toute sa vie. Mais vous avez parlé des attentats tout au début de cette émission. Pendant, ou tout de suite après, les attentats du Bataclan, Matzneff, qui était un chroniqueur d'un hebdomadaire, a fait un papier, comme on dit. Et il a mis en cause la génération Bataclan, en disant que la génération Bataclan, c'était celle du plaisir, c'était celle d'aller prendre des bières, et qui manquait de spiritualité. Donc, Matzneff, c'est pas simplement, comme il voudrait le faire croire, un libertin, non. Matzneff, c'est un pervers, qui considère que la jeunesse est une proie, qu'il faut la soumettre, et qui utilise même la spiritualité. De ce point de vue-là, il est lié aussi à des mouvements d'extrême droite. C'est pas la génération mai 68, Matzneff. C'est une génération, en plus, qui est sur les rapports de force, sur la domination, sur la soumission. Voilà pourquoi c'est pas simplement un cas individuel totalement déplorable. Et il faut souligner quand même le courage de Vanessa Springora. Mais c'est aussi révélateur de ce qui est partie des mouvements, je n'ose pas dire d'idées, mais qui travaillent la société. Je vais vous raconter même une autre histoire. Maznev, il a fait un papier, là aussi, dans le même journal, pour dire que je m'étais mal comporté à l'égard du pape, parce que je m'étais assis tout de suite avant lui, et que c'était vraiment manqué à tous ses devoirs.
Bon, c'est lui, quelqu'un de pointilleux.
Non, et qui pense que c'est plus grave de s'asseoir plus rapidement que le pape, que de violer des enfants.
Mais toujours si l'on reprend le dialogue que nous avons eu, François Hollande, par exemple, lorsque vous évoquiez votre déposition en 2006 au procès des caricatures de Mahomet, et ce qui était en cause, c'est la liberté d'expression. Et là, cette liberté d'expression, elle est invoquée pour la liberté de Gabriel Matzneff d'écrire.
Mais j'évoquais la liberté d'expression par rapport à la haine. On ne peut pas exprimer des propos qui appellent à la haine. On ne peut pas écrire des rapports qui ont eu lieu, qui sont des rapports de soumission, qui sont des rapports de mise en cause de ce qu'est finalement l'innocence aussi d'un enfant, et qui en fait aboutit à justifier la pédophilie. Donc la liberté d'expression, ou même la littérature, ou l'art, la culture, ne justifie pas, on peut fantasmer, on peut écrire ses fantasmes, mais ne justifie pas de raconter ses propres histoires et de mettre en cause des personnes. C'est pour ça que Vanessa Spingora s'est élevée quand il a eu le prix Renaudot pour les essais.
8h55 sur France Culture. Aurélien Bélanger, votre conclusion, je vous prie.
Je me faisais la remarque suivante en me baladant dans les rues d'un quartier aujourd'hui vaguement branché de Paris et autrefois résolument cosmopolite. Ce qui avait été autrefois le paradis des amateurs de cuisine exotique avait évolué bizarrement. L'exotisme principal semblait y être devenu nous-mêmes, nous-mêmes en tant qu'objet principal du folklore postmoderne. On a bien vu venir, des livres de cuisine la documentent, le retour de la cuisine de bistrot, des tripes, du vin glacé et des nappes en Vichy. On en subit encore les lointaines conséquences quand on se fait servir, dans des brasseries quelconques, des frites sur le fac-similé d'un faux journal, dans un panier à friture individuelle et factice, et que le steak tartare au couteau sera posé, comme si cela n'était pas la plus abominable matière à pouvoir entrer en contact avec une fourchette, sur un morceau d'ardoise. Autrefois, la maison ne faisait pas d'ardoise, aujourd'hui, elle ne fait plus que ça. J'avais eu, dès la fin des années 2000, un aperçu bizarre sur l'évolution de la gastronomie en allant boire des verres, rue du Faubourg Saint-Denis, chez Jeannette, qu'on m'avait alors présenté comme un bistrot branché. J'attendais naïvement un plafond en miroir et un sol de béton ciré, mais tout ce que j'y avais vu du futur, c'était comme, à Laval ou à Châteauroux, une farandole des desserts qui tournait lentement sur les plateaux circulaires d'une vitrine à desserts réfrigérée. Devant ces Navarins, ces Trianon et ces Charlotte, j'ai lentement enregistré l'information que le règne du tiramisu touchait à sa fin, mais il n'était même pas sûr encore que chez Jeannette, comme son voisin le Morissette, soit un néo-bistrot, comme le seront en revanche ces artefacts irréfutables que sont les brasseries Barbès et Bélanger, près de la gare du Nord. Laquelle brasserie Bélanger m'irrite moins, pour les raisons qu'on croit? Après tout, j'ai trouvé une façon astucieuse de lui faire payer un copyright en y récupérant, luxe suprême, des assiettes à mon nom, que pour sa façon, 13 années 10 finissantes, de nous montrer qu'elle sait qu'on sait qu'elle n'est pas un bistrot authentique, en utilisant des fausses victoires en plastique comme élément de décoration, des victuailles si évidemment fausses qu'elles activent dans nos cerveaux connivants les circuits de la récompense du kitsch et la plaisante redondance du second degré qui tient à peu près lieu de conscience aux urbains que nous sommes. Non, si ces fromages faux et ces raisins de plastique m'agacent autant, c'est que derrière leur ironie dadaïste, j'y ai décelé le spectre de l'appropriation culturelle. Ces objets en plastique non seulement appartiennent à ma mémoire, mais ils en sont même tout au fond de la crèche de Barentin où m'avait un jour abandonné ma mère et dont je confonds encore le petit péristyle avec mes larmes infinies, le mobilier le plus ancien. Ils sont en cela pour moi d'une matière bien plus précieuse que leur mauvais plastique. À ce propos, pour rester dans le thème compliqué de l'appropriation culturelle et de ma rapport complexe à la Normandie, je me suis récemment demandé si ce n'était pas encore de cela qu'il retournait quand, écoutant Allumer le feu sur Chéri FM, j'ai brusquement bifurqué sur la 13 pour m'arrêter à l'aire sud de Beauchesne, connu pour sa thématique viking avec un guerrier géant en bois, un drakkar à escalader et des faux rochers remplis de runes. Et j'ai compris, enfin, ce qui me gênait dans tous ces nouveaux restaurants à patron moustachu et tatoué qui se faisaient appeler Bidoche, Franquetouche et René. Il s'agissait bien d'appropriation culturelle, autrement dit de la fabrication à des fins marketing, d'un exotisme facile, largement fondé sur la caricature. Mais celle-ci était plus bizarrement, presque plus perverse que l'autre, puisqu'elle rajoutait implicitement dans l'équation l'idée que cette appropriation était légale, puisqu'il s'agissait de notre culture, et qu'il était temps, enfin, de la valoriser, après en avoir trop longtemps eu un peu honte. Et je me disais ainsi, errant parmi les anciens bûcherons dans la forêt désolée d'un quelconque hipsterland, que derrière l'idée que les tripes étaient le nouveau boboon, la blanquette, la soupe faux de demain, il y avait quelque chose de vaguement xénophobe, et non pas tant contre les gastronomies soudain remplacées par un prétendu retour à l'original, mais contre nous-mêmes, en tant que nous nous racontions désormais, fables dangereuses, que nous étions devenus si fragiles qu'il fallait nous protéger, nous et notre gastronomie délicate, et nous aimer aussi mal qu'on avait autrefois prétendu aimer les peuples colonisés.
Merci Aurélien Bélanger. François Hollande, monsieur le président, il y a la gastronomie des présidents, il y a la tête de veau qui, je crois, a été célébrée naguère, le cordon bleu, je crois que l'un de vos successeurs. Les cordons bleus, vous, un plat, quel...
Je n'ose pas parler de beefsteak frites après ce qui vient d'être dit, de peur.
C'est pas servi sur une ardoise.
Voilà. Je n'ai pas besoin de faire de l'exotisme pour dire que je suis français. Je pense que j'aime la nourriture. Je l'ai montré, y compris corporellement. Donc, je pense que ça fait partie aussi de ce que la France peut apporter dans sa diversité. Il y a plusieurs gastronomies, il y a plusieurs plaisirs que l'on peut trouver à travers
vous
des plats.
Pas, et ce vous ne voulez pas donner un plat. Hein,
si, je voulais donner. Je reste
à
sur, une conception assez française, c'est vrai, mais assez madame mondialisée aussi. Mais faut-il encore que les frites soient véritablement belges et le beefsteak d'origine française.
Donc c'est européen. Merci François Hollande, monsieur le président.
Merci à vous.
Accompagné ce matin, et on évoque les 5 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo avec LSD, la série documentaire toute la semaine, Vivre avec le terrorisme, une série documentaire d'Alain Lefkovitch et de Séverine Cassard. Merci à toute l'équipe des matins, Pauline Chanuet, Elodie Piel, Maïwenn Guiziou, Léa Capuano, Louison Carouet, David Jacobovias, Nicolas Paumet, Martin Desclozeaux, Swad Boukorsa et Olivier L. Il est 9h sur France Culture.